Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Tome 2, chapitre 2. Visite faite à Monsieur Ralph Nickleby par des personnes qui sont déjà de notre connaissance. Combien donc de diables d'heures me laissez-vous sonner à cette vieille casserole de sonnette, que Dieu confonde, dont un seul frétillement suffit pour faire tomber du haut mal le gaillard le plus robuste, ou que le diable m'emporte ? Dit Monsieur Mantalini à Newman Nodge, tout en s'essuyant les bottes sur le décrottoir de Ralph Nickleby.
« Je n'avais entendu sonner qu'une fois, » répondit Newman.
« Alors il faut que vous soyez le plus immensément et le plus abominablement sourd, » dit Monsieur Mantalini. « Aussi sourd qu'un poteau du diable. » Pendant ce temps-là, Monsieur Mantalini, qui avait gagné le corridor, se dirigeait sans cérémonie vers la porte du bureau de Ralph, quand Newman lui barra le passage en lui disant que Monsieur Nickleby ne voulait pas être dérangé, et finit par lui demander si c'est qu'il avait quelque chose de pressé à lui communiquer.
« Je crois bien, » dit Monsieur Mantalini.
« Diablement pressé !
C'est pour fondre quelques sales chiffons de papier en une coquine de sauce de petite monnaie luisante, rayante, sonnante, retentissante !»
Pendant que Newman annonçait l'objet de sa visite, l'objet lui-même entrait sans façon dans la chambre, et serrant la main cailleuse de Ralph avec une vivacité d'action peu commune, lui jurait ses grands dieux qu'il ne lui avait jamais vu si bonne mine de toute sa vie.
« Il y a toujours un velours de pêche sur votre diable de figure !» dit Monsieur Mantalini, prenant une chaise, sans attendre d'en être prié, et s'arrangeant les cheveux et les moustaches. « Vous avez un air jeune et gaillard, où le diable m'emporte !»«
Nous voici seuls !» répondit Ralph sèchement. « Qu'est-ce qu'il vous faut ?»«
C'est délicieux !» cria Mantalini, déployant en rire tous les mailles de son râtelier. « Ce qu'il me faut ! Oui ! C'est délicieux, ce qu'il me faut ! De par tous les diables !»«
Je vous demande ce qu'il vous faut !» répéta Ralph avec aigreur.
« Parbleu ! Un chien d'acompte ! Pas autre chose !» répondit Monsieur Mantalini ricanant et secouant la tête de la manière la plus bouffonne.
« L'argent est rare !» dit Ralph.
« À qui le dites-vous, diablement rare, ou vous ne me verriez pas ici ?»«
Les temps sont durs. On sait à peine à qui se fier, » continua Ralph. « Je n'ai pas besoin de faire d'affaires en ce moment, ou pour mieux dire, tenez, j'aime mieux n'en pas faire du tout. Cependant, comme vous êtes un ami, combien avez-vous là de billets ?»«
Deux. »
« Quel en est le montant ?»«
Une chienne de bagatelle, 1800 francs. »«
L'échéance ?»«
2 mois et 4 jours. »«
Eh bien, je veux bien les prendre, mais c'est à cause de vous. Songez-y bien, à cause de vous. »« Je ne le ferai pas pour d'autres. »« Je les prends à 600 francs d'escompte. » »«
Ah, nom d'un chien ?» cria Monsieur Mantalini, dont la figure s'allongea d'une aune à cette aimable proposition.
« Eh bien, il vous reste 1200 francs, » reprit Ralph. « Qu'est-ce que vous vouliez en faire donc ? Voyons, laissez-moi regarder les noms. »«
Vous êtes diablement serré, Nickleby !» lui dit Mantalini d'un ton de reproche.
« Laissez-moi voir les noms, » répliqua Ralph, qui, dans son impatience,
tendit la main pour se faire donner les billets.
« Bon, ce n'est pas fameux, mais ce n'est pas non plus trop véreux. Acceptez-vous mes offres et voulez-vous de l'argent ? Moi, je n'y tiens pas, au contraire. »«
Diable ! Nickleby, ne pourriez-vous pas ?»«
Non, » répliqua Ralph en l'interrompant. « Je ne peux pas. Voulez-vous de l'argent ? Prenez-le, voyez. Il ne s'agit pas ici d'attendre. » d'aller à la cité chercher à négocier les billets avec quelque autre personne sans garantie. Est-ce fait ou non ?
En même temps,
Ralph poussa quelques papiers sur son bureau et remua, comme par pur accident et sans y faire attention, son coffre d'argent courant. Le bruit du métal cher à Mantaligne décida son irrésolution. Il conclut le marché sans attendre, et Ralph lui compta les espèces sur la table. Monsieur Mantaligne ne les avait pas encore entièrement ramassées quand on entendit sonner à la porte. Et qui vit-on entrer immédiatement, annoncé par Newman Nodge ? Madame Mantaligne en personne, dont la vue mit Monsieur Mantaligne dans le plus grand embarras. Aussi se dépêcha-t-il avec une vivacité remarquable d'empocher son argent.
« Ah, vous voilà ici !»
dit Madame Mantaligne en remuant la tête.
« Oui, mon âme, oui, ma vie, c'est bien moi !»
répliqua l'époux folâtre, se jetant à quatre pattes comme un chat pour courir après un écu égaré qui venait de lui échapper des mains.
« C'est bien moi, délice de mon existence, que vous voyez sur le carreau,
occupé à ramasser de mon mieux un peu de ce diable d'or ou d'argent ?»«
Vous me faites honte !»
dit Madame Mantaligne avec une grande indignation.
« Vous faire honte, moi ? Femme adorable, mais non ! Je sais bien que toutes ces paroles sont d'une douceur séduisante. Ce sont seulement autant de petites coquines de menterie, » reprit Monsieur Mantaligne.
« Elle sait bien qu'il ne lui fait pas honte, son petit bibi chéri. »
Quelles que fussent les circonstances qui avaient dessillé les yeux de Madame Mantaligne, ce qu'il y a de sûr, c'est que, pour le moment, le petit bibi chéri sembla s'être mépris en comptant sans réserve sur l'affection de sa femme. Madame Mantaligne, pour toute réponse, lui lança un regard de mépris et, se tournant vers Ralph, lui fit des excuses de cette visite inattendue.
« La faute, dit-elle, en est tout entière à la mauvaise conduite et aux indignes procédés de Monsieur Mantaligne. De qui ? De moi ? « Mon délicieux sirop d'ananas !»« Oui, de vous !» répondit sa femme. « Mais je ne le souffrirai pas. Je ne veux pas me laisser ruiner par des prodigalités extravagantes d'un homme. Je prie, Monsieur Nickleby, de vouloir bien entendre le parti que je suis décidée à suivre à votre égard. »«
Je vous en prie, madame, ne me mêlez pas là-dedans. Arrangez cela entre vous. Entre vous seule. »
Non. « Je n'entends pas vous y mêler du tout. La seule faveur que je vous demande, c'est de vous rappeler au besoin la déclaration que je fais ici de mes fermes intentions. Oui, monsieur, de mes fermes intentions !»
répéta Madame Mantaligne, lançant à son époux un regard de colère.
« Monsieur !» cria Mantaligne. « Je crois qu'elle m'a appelé monsieur. Moi qui raffole d'elle de toute l'ardeur diabolique de mon cœur. Elle qui m'a subjugué de son regard fascinateur. » Comme le plus pur et le plus angélique serpent à sonnette. Voilà le dernier coup porté à ma sensibilité. Elle pourra se flatter de m'avoir précipité dans un diable de désespoir.
Ne parlez pas de sensibilité, monsieur, reprit Madame Mantaligne, prenant une chaise et lui tournant le dos.
C'est vous qui ne respectez pas la mienne. Quoi ? Mon âme, je ne respecte pas la vôtre !
S'écria Monsieur Mantaligne.
Non !
répliqua sa femme. Et malgré toutes sortes de cajoleries de la part de Monsieur Mantaligne, Madame Mantaligne dit non une fois pour toutes, et cela d'un ton si déterminé, avec un mauvais vouloir de parti pris si manifeste, que cela ne laissa pas d'inquiéter Monsieur Mantaligne.
« Voyez-vous, Monsieur Nickleby,
dit-elle en s'adressant à Ralph, qui se tenait appuyé sur son fauteuil, les mains derrière le dos et regardait l'aimable couple avec un sourire de mépris le plus suprême et le moins dissimulé.
« Son extravagance, oui, son extravagance ne connaît plus de bornes !»«
Vraiment ? Qui aurait cru cela ?»
répondit Ralph d'un ton de sarcasme.
« Eh bien, monsieur Nickleby, c'est comme cela !» continua Madame Mantaligne. « J'en suis on ne peut plus malheureuse !» dans des appréhensions continuelles, dans des embarras et des difficultés sans fin. Et ce n'est pas encore tout,
dit-elle en s'essuyant les yeux.
Voilà bien pis. Ce matin même, il a pris dans mon bureau des papiers importants sans m'en demander la permission.
Monsieur Mantaligne poussa un gémissement et par précaution boutonna son gousset.
Depuis nos derniers malheurs, continua Madame Mantaligne. « Je suis obligée de payer très cher Mademoiselle Nag pour qu'elle serve de prête-nom à mon commerce, et je ne puis en vérité plus encourager mon mari dans son gaspillage extravagant. Comme je ne fais aucun doute qu'il n'est venu tout droit ici, monsieur, que pour faire de l'argent avec les papiers dont je vous parlais tout à l'heure, comme vous nous avez déjà assisté bien des fois, et que personne ne connaît mieux que vous nos affaires, je vais vous faire connaître aussi le parti auquel sa conduite m'a forcé de recourir. » Monsieur Mantaligne, placé derrière sa femme, poussa un nouveau gémissement, et par-dessus le chapeau de Madame Mantaligne, fixant en guise de lorgnon un louis d'or à son œil gauche, cligna de l'œil droit à l'ami Ralph. Puis, après avoir joué cette comédie avec une dextérité merveilleuse, il fit retomber la pièce d'or dans sa poche et recommença ses gémissements avec tous les signes d'un repentir toujours croissant. Madame Mantaligne, pour abréger, à la vue des marques d'impatience qui se manifestaient dans la physionomie de Ralph, se hâta d'ajouter « J'ai pris la résolution de le pensionner. »«
De me quoi, mon amour ?»
demanda Monsieur Mantaligne, qui avait l'air de n'avoir pas bien entendu.
« De lui faire, » dit Madame Mantaligne, les yeux tournés vers Ralph,
car elle se gardait bien, par prudence, de jeter le moindre coup d'œil du côté de son mari, dont les grâces infinies auraient pu ébranler sa résolution.
« De lui faire une pension, et j'espère qu'avec 1000 écus par an pour son entretien et ses menus plaisirs, il devra se considérer comme un homme bienheureux. »
Monsieur Mantaligne, avec un grand décorum, attendit qu'elle eût énoncé en propres termes le montant de la pension. Mais il n'eut pas plutôt entendu le chiffre qu'il jeta par terre sa canne et son chapeau, tira de sa poche son mouchoir et laissa sa sensibilité s'épancher en mugissement extravagant.
« Ah ! Damnation ! »
s'écria-t-il, sautant tout à coup de sa chaise et retombant aussitôt dans sa chaise, assez souvent pour affecter les nerfs de son épouse épouvantée.
« Mais non ! C'est un démon d'abominable cauchemar ! Ce n'est pas une réalité, non !»
Et Monsieur Mantaligne, rassuré par cette supposition ingénieuse, ferma les yeux comme un homme décidé à attendre patiemment la fin d'un mauvais rêve.
« Je trouve cet arrangement-là très judicieux, » dit Ralph en ricanant. « Pour peu que votre mari veuille s'y conformer fidèlement, madame, comme il le fera sans doute. »«
Nom d'un chien !»
s'écria Monsieur Mantaligne, ouvrant les yeux à la voix de Ralph.
« C'est une horrible réalité, oui, je la vois. La voilà, assise là, devant moi. Voilà les gracieux contours de ses formes charmantes. Comment ne pas les reconnaître ? Il n'y a qu'elle pour avoir de ces charmes-là. Ne me parlez pas des contours de mes deux comtesses. Elles n'en avaient pas du tout. Et quant à la douairière, les siens étaient diablement vilains. Ah, c'est bien cette beauté enivrante qui fait que je ne puis me fâcher contre elle, même en ce moment. »
« Vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous de ce qui vous arrive, Alfred !» reprit Madame Mantaligne d'un ton de reproche encore, mais d'un ton de reproche adouci.
« Oui, je le sais !»
cria Monsieur Mantaligne en faisant semblant de se tirer les cheveux.
« Je suis un vilain animal, mais je sais bien ce que je vais faire. Je vais changer un Napoléon en gros sous, j'en lesterai mes poches et j'irai me noyer dans la Tamise !» Mais c'est égal, même noyée, je ne serai pas fâchée contre elle, car je mettrai en route une lettre à la poste pour lui dire où elle trouvera le corps. Quelle charmante veuve cela va faire! Et moi, je ne serai plus qu'un cadavre. Il y a bien des jolies femmes qui pleureront, mais elle rira comme un diable.
Alfred, méchant, cruel que vous êtes! Dit Madame Mantaligne, qui ne put s'empêcher de sangloter à cet horrible tableau.
« Elle m'appelle cruelle, moi ! Moi, je vais pour l'amour d'elle faire de mon corps un vilain cadavre tout froid et tout humide !»
s'écria Monsieur Mantaligne.
« Vous savez, répliqua Madame Mantaligne, que rien que de vous entendre parler de ces choses-là, cela me fend le cœur. « Et quoi ? Voulez-vous que je vive pour être l'objet de votre méfiance ?»
cria son mari.
« Quoi ? J'aurais coupé mon cœur en je ne sais combien de 1000 petits morceaux que je lui ai donnés tous.
l'un après l'autre à cette charmante petite diablesse d'enchanteresse. Et cela, pour vivre en butte à ses soupçons. Non, non d'un chien, non, c'est impossible.
Demandez à monsieur Nickleby si la somme dont j'ai parlé n'est pas raisonnable, répondit madame Montaligne.
Je me moque bien d'une somme,
répliqua son mari inconsolable.
Je me moque bien de vos odieuses pensions. Eh bien, je serai cadavre, voilà tout.
Madame Montaligne ne put entendre monsieur Montaligne répéter cette fatale menace sans se tordre les mains, sans implorer l'intervention de Ralph Nickleby. Enfin, après bien des pourparlers, après une vaste quantité de larmes, après plusieurs tentatives de monsieur Montaligne pour se diriger du côté de la porte, dans l'intention d'aller immédiatement commettre quelque acte de violence contre lui-même, ce généreux gentleman se laissa fléchir et finit par promettre, non sans peine, qu'il ne deviendrait pas cadavre. Une fois ce point important obtenu, madame Montaligne remit sur le tapis la question de la pension. Monsieur Montaligne recommença ses refus, répétant toujours qu'il vivrait avec le plus grand plaisir de pain et d'eau, qu'il n'avait aucune répugnance à traîner la savate. La seule existence à laquelle il ne pouvait se résigner, c'était de se voir en butte à la défiance de l'objet de son affection la plus dévouée et la plus désintéressée. Nouvelle larme de madame Montaligne, dont les yeux, faiblement ouverts par quelques révélations récentes sur les défauts de monsieur Montaligne, ne demandait pas mieux que de se fermer encore en sa faveur. Aussi, le résultat de toute cette scène fut que madame Montaligne n'abandonna pas précisément, mais ajourna la question de la pension. Ralph ne s'y trompa pas. Il vit bien que monsieur Montaligne venait de contracter un nouveau bail de sa vie désordonnée, et que dans tous les cas, ce n'était pas encore pour cette fois que seraient consommées sa chute et sa ruine.
« Mais, se disait Ralph, cela ne peut toujours pas tarder. N'est-ce pas l'histoire de tous les amours, quand je pense qu'il faut parler le jargon des petits garçons et des petites filles ? L'amour, donc, est bien volage. Et pourtant, celui peut-être qui dure le plus longtemps, apparemment parce qu'il naît d'un des plus grands aveuglements, qu'il est entretenu par la vanité. » C'est celui qui n'a pas d'autre racine que l'attrait d'une tête à moustache, comme ce méchant babouin. Qu'est-ce que cela me fait? Tout cela amène l'eau à mon moulin. Laissons-les donc continuer leur folie. Plus elle durera, plus elle me rapportera.
Telles étaient les réflexions agréables dont s'occupait Ralph Nickleby, pendant que l'heureux couple échangeait une foule de petites caresses et de petits soins tendres qu'il avait l'air de ne pas voir.
« Si vous n'avez plus rien à dire à monsieur Nickleby, mon cher ami, » dit madame Montaligne,
« nous allons lui souhaiter le bonsoir, car j'ai peur que nous ne l'ayons déjà retenu trop longtemps. » Monsieur Montaligne, en réponse à cette invitation, commença par donner de son doigt léger quelques petits coups sur le nez de madame Montaligne. Puis, il finit par déclarer qu'il n'avait plus rien à dire.
« Ah, chien ! Mais si !»
ajouta-t-il presque aussitôt, entraînant Ralph dans un coin de la chambre.
« À propos, et l'affaire de votre amie, sœur Melbury ? Voilà une diable d'aventure, la plus étrange que j'ai jamais vue, hein ?»«
Que voulez-vous dire ?» demanda Ralph.
« Comment diable ? Vous ne savez donc pas ?»«
Je ne sais, » répondit Ralph avec un grand sang-froid. Que ce que je lis ce matin dans le journal, qu'il est tombé de son cabriolet hier soir, qu'il s'est fait beaucoup de mal et que sa vie court quelques dangers. Mais je ne vois rien d'extraordinaire là-dedans. Il ne faut pas crier miracle quand les gens font bonne chère et conduisent eux-mêmes ensuite leur voiture après dîner.
« Lui ? »
cria monsieur Montaligne avec une espèce de sifflement prolongé. « Alors, je vois bien que vous ne savez pas comment la chose s'est passée. »
« Ma foi, non, si ce n'est pas ce que je supposais, »
répliqua Ralph en haussant les épaules d'un air indifférent, comme pour faire entendre à son interlocuteur qu'il n'avait aucune curiosité d'en savoir davantage.
« Diable, vous m'étonnez !» cria Montaligne.
Ralph haussa encore les épaules, voulant dire qu'il ne fallait pas grand-chose pour étonner M. Montaligne,
et jeta un regard d'intelligence à Newman Nudge, dont la figure s'était déjà montrée plusieurs fois derrière la porte vitrée, car c'était une de ses fonctions, quand son patron recevait la visite des gens sans conséquence, de se présenter de temps en temps, comme s'il l'avait entendu le signal de la sonnette pour les reconduire. Manière polie de leur faire savoir qu'il était temps de déguerpir.
« Quoi, vous ne savez pas ?»
dit M. Mantalini, prenant Ralph par un bouton de son habit.
« Que ce n'est pas du tout un accident, mais une diable d'attaque, un abominable guet-apens de votre neveu. »«
Comment ?» dit en grondant Ralph Nickleby, les poings crispés et la figure livide.
« Sapristi, Nickleby !»
dit Mantalini, alarmé de ses démonstrations belliqueuses.
« À ce que je vois, l'oncle est un fier tigre aussi, comme le neveu. »«
Continuez, » cria Ralph. « Dites-moi ce que cela signifie. Qu'est-ce que c'est que tous ces contes? Qui vous l'a dit? Parlez, » dit-il en grommelant.
« Voyons, m'entendez-vous ?»«
Diable, Nickleby !»
dit Monsieur Mantalini, se retirant tout doucement du côté de sa femme.
Savez-vous que vous avez l'air d'un terrible mauvais génie avec votre physionomie féroce? Vous êtes dans le cas de faire perdre connaissance à cette petite délicieuse âme de ma vie, en vous laissant emporter au ravage brûlant de la plus enragée colère que j'ai jamais vue. Le diable m'emporte!
Bah! Répliqua Ralph, faisant semblant de sourire. Ce n'est qu'une frime.
Si c'est une frime, dit M. Mantalini en ramassant sa canne, c'est une chaîne de mauvaises frimes, comme on en voit aux petites maisons.
Ralph affecta de sourire et demanda encore de qui Mantalini tenait cette nouvelle.
« De Pic !» répondit Mantalini. « Et c'est un chien, celui-là, qui est diablement agréable avec ses beaux petits airs de gentleman. Il est diablement bouffon avec ses prétentions de paysan endimanché. »«
Eh bien, qu'est-ce qu'il vous a dit ?»
demanda Ralph en fronçant les sourcils. « Voilà l'histoire. Votre neveu a rencontré Sir Mulberry dans un café. »
Il est tombé sur lui avec une férocité abominable, l'a poursuivi jusqu'à son cabriolet, en jurant de ne pas le quitter jusque chez lui, quand il devrait monter sur le dos du cheval ou s'attacher à sa queue. Il lui a cassé la figure. Une diable de belle figure dans son état naturel. Il a effrayé le cheval, s'est fait jeter par terre avec Sir Mulberry et...
« Et s'est tué !» interrompit Ralph, l'œil étincelant d'espérance. « N'est-ce pas? Il est mort !»
Mantalini fit signe de la tête qu'il n'en était rien.
« Ouf !» dit Ralph en détournant la tête. « Il ne s'est donc rien fait ? Attendez un moment, » ajouta-t-il en se retournant vers Mantalini. « Mais au moins, s'est-il cassé un bras, une jambe ? S'est-il démis l'épaule ? S'est-il cassé le cou ? S'est-il enfoncé une ou deux côtes ? En attendant la potence, est-ce qu'il n'a pas attrapé quelques bonnes blessures bien douloureuses, bien longues à guérir pour la peine ? Voyons, vous avez dû entendre parler de cela.
Non, répondit Mantalini, branlant encore la tête. À moins qu'il n'ait été brisé en des tas de petits morceaux que le vent n'a eu qu'à souffler dessus pour les emporter, je n'ai pas entendu dire qu'il ait du mal. Au contraire, il est parti aussi tranquille et aussi bien portant que...
« Que le diable !»
dit M. Mantalini après avoir été un peu longtemps dans l'embarras pour trouver cette comparaison.
« Et dit-on, » demanda Ralph avec un peu d'hésitation, « quelle a été la cause de la querelle ?»«
Vraiment ?»
répondit M. Mantalini d'un ton d'admiration.
« Vous êtes bien le plus habile démon que je connaisse, le plus rusé, le plus fin, le plus superlatif. Vieux renard !» « Sapristi, dire que vous allez maintenant faire semblant d'ignorer que c'est la petite nièce aux yeux émerveillés, la plus gracieuse, la plus douce qui... »«
Alfred !»
cria Madame Mantalini, le rappelant à l'ordre. « Elle a raison, toujours raison, » reprit Monsieur Mantalini, d'un ton câlin. « Quand elle dit qu'il est temps de partir, c'est qu'il est temps, en effet, et qu'il faut qu'elle parte. Partons !» Tout à l'heure, dans les rues, quand il ira bras dessus, bras dessous avec sa tulipe chérie, toutes les femmes diront avec envie « En voilà une qui a un diablement bel homme !» Et tous les hommes diront avec ravissement « En voilà un qui a une diablement belle femme !» Et les femmes auront raison et les hommes n'auront pas tort. Ma parole d'honneur, où le diable m'emporte !» Monsieur Mantalini, sur ses réflexions accompagnées de plusieurs autres, toujours aussi raisonnables, envoya du bout de ses gants un baiser en signe d'adieu à Ralph Nickleby, et prenant sous son bras le bras de son épouse, l'emmena en faisant une foule de petites minauderies.
« Là, là !» murmura Ralph en se jetant dans son fauteuil. « Voilà ce démon encore une fois déchaîné, et à chaque fois il ne manque pas de revenir me contrarier. Il ne semble fait que pour cela. Il m'a dit un jour que nous aurions tôt ou tard un règlement de compte à faire entre nous. Eh bien, je ne peux pas le faire mentir. Je veux lui régler son compte. »
« Êtes-vous chez vous ?»
demanda Newman, passant brusquement la tête à la porte.
« Non, »
répondit Ralph aussi brusquement. La tête de Newman disparut, puis elle reparut presque tout de suite.
« Vous êtes bien sûr que vous n'y êtes pas ?»
dit Newman.
« Imbécile ! Qu'est-ce que cela veut dire ?»
cria Ralph d'un ton bourru.
« C'est qu'il est là, à attendre depuis l'arrivée des autres, et qu'il doit vous avoir entendu parler. Voilà tout !»
dit Newman en se frottant les mains.
« Qui est-ce ? »
demanda Ralph, poussé à bout par la nouvelle qu'il avait apprise tout à l'heure et maintenant par le sang-froid dépitant de son clerc. Newman n'eut pas besoin de répondre. Au moment où on ne s'y attendait guère, entra l'individu en question, qui, braquant tout à coup son œil unique sur Ralph Nickleby, lui fit avec humilité et force révérence, s'assit dans un fauteuil, les mains sur les genoux, gêné dans son pantalon, qui n'était pas tout à fait pour s'asseoir car il était si court que dans cette position, les jambes s'en trouvaient relevées à la hauteur des revers de ses bottes à Wellington.
« Eh mais, quelle surprise !»
dit Ralph regardant de près son visiteur et terminant cet examen attentif par un demi-sourire.
« Je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas reconnu plus tôt, monsieur Squeers. »«
Oh !» répliqua le digne homme. « Vous auriez eu moins de mal à me reconnaître si toutes les affaires ne m'avaient pas empêché de venir vous voir plus tôt. »«
Dites-moi, brave homme, » dit Squeers en s'adressant à Newman, « aidez-moi donc ce petit garçon à descendre du tabouret là-bas dans votre bureau et dites-lui de venir ici, voulez-vous ?»«
Oh, mais il est descendu lui-même. Je vous présente mon fils, monsieur, le petit Wackford. »
« Qu'est-ce que vous en dites, monsieur, comme échantillon de la nourriture qu'on leur donne à Dotheboys Hall ? Voyez s'il ne va pas crever sa veste et son pantalon, faire éclater les coutures et sauter jusqu'au bouton avec sa graisse. »«
Est-ce de la chair, ça ?»
cria Squeers en faisant tourner le petit garçon sur son pivot et en lui fourrant le poing dans les parties les plus charnues pour faire boursoufler son embonpoint, ce qui avait l'air de faire un médiocre plaisir à son héritier présomptif.
« Est-ce ferme ? Est-ce solide ? Je parie qu'on ne lui trouverait pas sur le corps de quoi pincer seulement entre l'index et le pouce. N'importe où !»
Quelque satisfaisant que l'on pût supposer l'état de Maître Squeers, cela n'allait pas, cependant, jusqu'à en faire une chair aussi compacte que pouvait bien le dire monsieur son père. Et lorsque celui-ci poussa la description jusqu'à faire l'expérience entre le pouce et l'index, l'autre poussa un cri aigu et se frotta la place de la manière la plus naturelle du monde.
« Tiens !» dit Monsieur Squeers un peu déconcerté. « Il paraît que j'ai trouvé là le défaut de la cuirasse !»«
Après cela, il faut dire que nous avons déjeuné de bonne heure ce matin, et qu'il n'a pas encore fait son goûter. Mais je suis sûr qu'après son dîner, on ne lui prendra pas seulement cela entre deux portes. »«
Tenez, monsieur !» ajouta Squeers d'un air triomphant, pendant que Maître Wackford s'essuyait les yeux avec la manche de sa veste.
« Regardez-moi ces larmes, si ce n'est pas comme de la graisse !»«
Il a bonne mine, certainement, » répondit Ralph, qui, pour des raisons à lui connues, paraissait désirer de ménager le maître d'école. « Mais je ne vous ai pas demandé des nouvelles de Madame Squeers. Et vous-même, comment vous portez-vous ? » ?»«
Madame Squeers, monsieur, est comme toujours, » répliqua le propriétaire de Dotheboys Hall. « La mère de tous ces petits garçons ?» La bénédiction, la consolation, la joie de tous ceux qui ont le bonheur de la connaître. Un de nos élèves, qui s'était gorgé d'aliments au point de s'en rendre malade, ils n'en font pas d'autres, a attrapé un abcès la semaine dernière. Il fallait la voir à la besogne avec un canif. Dieu de Dieu,
dit M. Squeers avec un profond soupir et des mouvements de tête répétés en l'honneur de son épouse. « Quel ornement pour la société qu'une femme comme cela !» M. Squeers resta absorbé quelques secondes dans ses réflexions après cet éloge, comme s'il se trouvait, par une transition naturelle, ramené des perfections de sa femme à la douceur paisible du village de Dotheboys, près de Greta Bridge, en Yorkshire. Puis, il regarda Ralph pour voir s'il lui dirait quelque chose.
« Êtes-vous bien remis des voies de fée de ce gredin ?» demanda Ralph.
« C'est à peine passé, si toutefois c'est fini !» répliqua Squeers. « Je n'étais qu'une plaie, monsieur, depuis ici jusque-là !»
Et il promenait ses doigts de la pointe de ses bottes à la racine de ses cheveux.
« Du vinaigre et du papier brouillard, du papier brouillard et du vinaigre, depuis le matin jusqu'au soir !» Je parie que j'irai bien consommer en tout une demi-rame de papier brouillard. À me voir en peloton dans la cuisine, tout le corps couvert d'emplâtre, vous auriez dit d'un gros paquet de gémissements enveloppés de papier brouillard. Comment est-ce que je gémissais, Wackford ? Dites. Bien fort ou bien doucement ?
Demanda M. Squeers, appelant son fils en témoignage.
Bien fort, répondit Wackford.
Et les pensionnaires, Wackford ? « Était-il content ou fâché de me voir dans ce triste état ?»
demanda M. Squeers d'un air sentimental.
« Compte...
Comment ?»
cria Squeers en l'arrêtant.
« Fâché !»
répondit son fils.
« Ah !»
dit Squeers en lui donnant un bon soufflet.
« Allons, une autre fois, tâchez de ne pas avoir vos mains dans vos goussets et de ne pas vous tromper quand je vous interroge. Ne criez pas comme cela, cher monsieur !»
« Ne criez pas comme cela chez le monsieur, ou j'abandonnerai Dotheboys et ma famille pour ne plus jamais y remettre les pieds. Et alors, on verrait ce que deviendraient ces chers enfants, ces précieux pensionnaires laissés à eux-mêmes dans le monde, sans l'appui de leur meilleur ami, de leur second père. »«
Avez-vous eu besoin de recourir aux soins d'un médecin ?» demanda Ralph.
« Si j'en ai eu besoin, » répondit Squeers, « sans compter qu'il m'a remis sa note et qu'il montait haut. » Et pourtant, je l'ai payé. »
Ralph releva les sourcils avec une expression qu'on pouvait prendre à volonté pour de l'étonnement ou de la sympathie.
Oui, da, je l'ai payé sans abattre un denier,
reprit Squeers, qui semblait trop bien connaître l'homme auquel il avait affaire pour le supposer capable de se laisser prendre à quelque finesse et de bien débourser pour l'indemniser.
Mais au bout du compte, cet argent-là n'est pas sorti de ma poche.
Non, dit Ralph.
« Pas un rouge liard !»
répliqua Squeers. « Le fait est que nous ne faisons payer aucune note aux parents en sus de la pension, excepté celle des visites du médecin quand on l'appelle, et nous ne l'appelons que quand nous nous sommes sûrs des chalands. Vous comprenez ?»«
Je comprends, » dit Ralph.
« Très bien. Alors, quand on m'eut remis mon mémoire, nous avons pris 5 pensionnaires, tous enfants de petits commerçants de bonne paye, qui n'avait jamais eu la scarlatine. Nous en avons envoyé un en commission dans une chaumière du village où nous savions qu'il pouvait l'attraper. Il n'y manqua pas. Nous fîmes coucher les 4 autres avec lui et les voilà qui l'attrapent tous. Le médecin leur rend une visite en bloc et moi je divise le total de mon mémoire entre mes 5 gaillards. Je l'ajoute à leur petite note et les parents paient ma maladie.
Ce n'est pas mal imaginé,
dit Ralph, regardant l'instituteur du coin de l'œil.
« Je crois bien, » repartit Squeers. « C'est toujours comme cela que nous faisons. Tenez, quand Madame Squeers est accouchée du petit Wackford, ici présent, nous avons fait gagner la coqueluche à une petite douzaine de pensionnaires et partagé entre eux les frais de couche, y compris la garde.
» En règle générale, Ralph ne riait jamais. Mais en cette occasion, il fit tout ce qu'il put pour avoir l'air de rire et laissa M. Squeers s'en donner à cœur joie. Au souvenir de ce bon tour, après quoi, il lui demanda ce qui l'amenait à Londres.
« Une affaire de justice assez désagréable, » répondit Squeers en se grattant la tête. « Il s'agit d'une action qu'on m'intente pour un cas de prétendue négligence envers un pensionnaire. Je ne sais pas de quoi il se plaigne, il a pourtant été mis au vert comme les autres. » Un verre excellent.
Ralph parut ne pas bien comprendre cette explication.
Je vais vous expliquer ce que nous entendons par mettre au vert, » dit Squeers en élevant la voix, persuadé que si Ralph ne l'avait pas compris, il fallait qu'il fût sourd. Quand un pensionnaire devient languissant, mal à son aise, qu'il ne se sent plus d'appétit, nous le changeons de régime. Nous le mettons à la porte, une heure ou deux, tous les jours, pour qu'il aille, pendant ce temps-là, dans le champ de navet d'un voisin ou, quelquefois, quand c'est une indisposition plus délicate, dans un champ de carottes ou de navets alternativement. Et là, il mange à discrétion. Il n'y a pas dans tout le pays de meilleur champ de navet que celui où nous avons envoyé ce garçon. Et cependant, ne voilà-t-il pas qu'il y attrape un rhume, une indigestion, je ne sais quoi, et que les parents dirigent une poursuite judiciaire contre moi ? Qu'en dites-vous ? Auriez-vous jamais cru, ajouta Squeers, s'agitant sur sa chaise avec l'impatience d'un homme exaspéré par une injustice, qu'on pût porter l'ingratitude jusque-là ? Dites, est-ce croyable ?
Certainement c'est une vilaine affaire, dit Ralph.
Vous pouvez le dire hardiment, répliqua Squeers. Très vilaine. Je défie qu'on trouve un homme qui aime la jeunesse comme moi. Il y a, à l'heure qu'il est, à Dotboys Hall, pour 20 000 francs de jeunes gens par an. J'en prendrais pour 40 000 si je les trouvais. Je n'en aimerais pas moins tendrement chaque individu à 500 francs par tête. Tant j'aime la jeunesse.
Êtes-vous toujours descendu à votre ancien logement ?
Oui, nous sommes au Sarrasin, répondit Squeers. Et comme nous voici à la fin du semestre, nous continuerons d'y rester jusqu'à ce que j'aie récolté l'argent qui m'est dû. Et j'espère aussi quelques nouveaux pensionnaires. C'est pour cela que j'ai amené le petit Wackford. Il est bon à montrer aux parents. Je le mettrai même cette fois-ci dans la réclame. Voyez-moi ce garçon-là, un pensionnaire comme les autres, quoi. N'est-ce pas un vrai succès ? Un bel exemple d'élève à l'anglais ?
Je voudrais vous dire un mot en particulier, dit Ralph, qui, depuis quelque temps, parlait et écoutait machinalement, absorbé dans ses réflexions.
« Un mot ? Autant qu'il vous plaira, monsieur !» reprit Squeers. « Wackford allait jouer dans l'autre bureau, mais ne vous remuez pas trop pour ne pas vous maigrir. Cela ne fait pas mon affaire. Vous n'auriez pas là quelques pièces de dessous, monsieur Nickleby ?»
dit Squeers, faisant sonner dans sa poche un paquet de clés et marmottant entre ses dents qu'il n'avait que des écus et pas de menu monnaie.
Je crois que si, dit Ralph sans se presser, et tirant d'un vieux tiroir, après force recherche, un gros sou, un petit sou et une pièce de 2 liards.
Merci, dit Squeers en les donnant à son fils. Tenez, allez acheter une tarte. Le clerc de monsieur Nickleby va vous conduire chez le pâtissier. Surtout, achetez-en une bien nourrissante.
La pâtisserie, ajouta monsieur Squeers en fermant la porte sur le maître Wackford. Lui rendra la peau luisante, et les parents prennent cela pour un signe de bonne santé. Après cette explication assaisonnée de petits airs fins et narquois, M. Squeers prit sa chaise et la porta vis-à-vis de M. Nickleby pour le voir de plus près. Puis, l'ayant planté là à son entière satisfaction, il s'assit dessus.
« Écoutez bien, » dit Ralph, se penchant un peu vers lui.
Squeers fit signe de la tête qu'il écoutait avec attention.
« Je ne suppose pas, » continua Ralph, « que vous soyez assez simple pour pardonner ou pour oublier de gaieté de cœur les violences dont vous avez souffert, ni la honte de cet affront. »«
Pas si bête !» répliqua Squeers vivement.
« Ou pour perdre l'occasion de les rendre avec usure, s'il s'en présentait une. »«
Donnez-m'en une et vous verrez !»
Est-ce pour quelque chose comme cela que vous êtes venu me voir ?
Dit Ralph, levant les yeux sur le maître de pension.
Non, que je sache, répliqua Squeers. C'était seulement dans l'espérance qu'il vous serait possible d'ajouter à la bagatelle que vous m'avez déjà envoyée quelque argent de plus pour me dédommager de...
Ah ! Cria Ralph, l'interrompant. Il est inutile d'aller plus loin.
Après un assez long silence, pendant lequel Ralph paraissait tout entier à ses réflexions, il reprit la parole pour faire cette question.
« Qu'est-ce que c'est que ce garçon qui l'a amené avec lui ?»
Squeers dit son nom.
« Était-il jeune ou vieux, robuste ou maladif, doux ou mutin ? Voyons, parlons franchement.
reprit Ralph.
Mais il n'était pas jeune, répondit Squeers.
C'est-à-dire pas jeune comme un petit garçon, vous savez. Cela veut dire que ce n'était pas du tout un petit garçon, n'est-ce pas?
Eh bien, répondit Squeers avec vivacité, comme si cette observation l'avait mis mal à l'aise. Il pouvait avoir 20 ans. Pourtant, il ne paraissait pas son âge quand on ne le connaissait pas, parce qu'il lui manquait là quelque chose.
Et Squeers se portait la main au front.
Vous savez, vous auriez frappé 20 fois à la porte. Pas de réponse. Il n'y avait personne à la maison.
Et puis, à propos de frapper à la porte, vous frappiez peut-être assez souvent, marmotta Ralph entre ses dents.
Mais pas mal, répondit Squeers avec un rire forcé.
Quand vous m'avez envoyé un reçu de la petite bagatelle dont vous parliez tout à l'heure, dit Ralph, vous m'avez écrit dans la lettre que c'était un enfant depuis longtemps abandonné par sa famille et que vous n'aviez pas le moindre indice qui pût vous mettre sur la trace de qui il était. Est-ce la vérité?
C'est malheureusement trop vrai, répliqua Squeers, qui se mettait de plus en plus à son aise et devenait plus familier à mesure que Ralph devenait lui-même moins réservé dans ses questions. Il y a maintenant 14 ans, comme on peut le voir sur mon livre d'admission, un particulier d'assez mauvaise mine me l'amena un soir d'automne et me le laissa après m'avoir payé d'avance son premier quartier de 125 francs. L'enfant pouvait avoir alors 5 ou 6 ans, pas davantage.
Est-ce là tout ce que vous savez sur son compte?
Ma foi, j'ai le regret de le dire, mais c'est à peu près tout. J'ai toujours reçu la pension, pendant 7 ou 8 ans, et puis après rien. Il m'avait donné une adresse à Londres, ce garnement, mais quand j'allais pour me faire rembourser, j'ai trouvé visage de bois comme de raison. Ainsi, j'ai gardé le garçon par
charité, dit Ralph.
Par charité, comme vous le dites, répondit Squeers en se frottant les genoux. Et c'est justement au moment où il commence à pouvoir me rendre quelques petits services que ce mauvais gredin de Nickleby vient me l'enlever. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus vexant et de plus déplorable dans tout cela? Continua-t-il en baissant la voix et approchant sa chaise tout près de Ralph. C'est que, dernièrement, on est venu s'informer de lui, non pas chez moi, mais d'une manière indirecte, à des gens de notre village. Ainsi, c'est précisément lorsque j'aurais pu me faire payer tout l'arriéré. Qui sait? Quand peut-être même, ce n'est pas la première fois que cela se serait vu dans notre profession, on y aurait ajouté un cadeau pour lui trouver une place dans une ferme ou pour l'embarquer comme matelot, afin de ménager l'honneur de sa famille, si c'est un enfant naturel, comme j'en ai pas mal. Eh bien, c'est juste là le moment que ce scélérat de Nickleby choisit pour me le subtiliser, pour me voler comme dans un bois.
Vous et moi, nous pourrons avant peu nous trouver quitte avec lui,
dit Ralph en portant la main sur le bras de l'instituteur du Yorkshire.
Quitte?
Répéta Squeers.
Ah! Je lui donnerais bien volontiers encore du retour avec du temps pour le payer. S'il pouvait seulement tomber sous la patte de Madame Squeers, Dieu du ciel, je crois qu'elle le tuerait. Monsieur Nickleby, elle n'en ferait qu'une bouchée.
Eh bien, dit Ralph. Nous reparlerons de cela. Il me faut un peu de temps pour y songer. Il faudrait, pour bien faire, le blesser au cœur dans ses affections et dans ses sentiments. Si je pouvais le frapper dans ce garçon qu'il aime...
Frappez-le comme vous voudrez, monsieur, mais seulement frappez ferme. Voilà tout. Et là-dessus, je vais vous souhaiter le bonjour.
Hé, dites donc, décrochez-moi le chapeau du petit qui est là dans le coin et descendez mon fils du tabouret, voulez-vous?
En donnant à Newman Nudge ses instructions assez impolies, M. Squeers passa lui-même dans l'autre bureau, arrangea le chapeau sur la tête de Wackford avec une sollicitude toute paternelle, pendant que Newman, la plume derrière l'oreille, restait assis, roide et immobile sur son escabeau, regardant effrontément tour à tour le père et le fils.
« C'est un joli garçon, n'est-ce pas ?»
dit Squeers, penchant la tête de côté et se reculant de quelques pas pour mieux admirer les proportions avantageuses de son héritier.
« Magnifique !» dit Newman.
« Et puis, un joli petit embonpoint, n'est-ce pas ? L'embonpoint de 20 enfants au moins !»«
Ah !» répliqua Newman, regardant brusquement Squeers sous le nez. « De 20 enfants ? Ce n'est pas assez. Il a pris tout pour lui. Tant pis pour les autres. Oh mon Dieu.
Après ces observations un peu décousues, Newman retomba devant son bureau et se remit à écrire avec une rapidité merveilleuse.
Ouais, qu'est-ce qu'il veut dire, celui-là ?
Cria Squeers, à qui le rouge montait au visage.
Est-ce qu'il est gris ?
Pas de réplique de Newman.
Ou fou ?
Mais Newman avait l'air de ne pas seulement se douter qu'il y eût là quelqu'un avec lui. Aussi, M. Squeers, enhardi, se donna la satisfaction de dire que, sans doute, il était l'un et l'autre, et partit là-dessus, emmenant le petit Wackford, jeune homme d'une haute espérance. Nous avons vu Ralph Nickleby aux prises avec un certain sentiment d'intérêt naissant pour Catherine. Sa haine pour Nicolas, en ce moment, croissait exactement dans la même proportion. Il est possible que, pour expier sa faiblesse à ses propres yeux, il se dédommagea de l'inclination qu'il ressentait pour l'une, en détestant l'autre plus que jamais. Et puis de se voir bravé, méprisé, représenté à sa nièce sous les couleurs les plus noires et les plus odieuses, de savoir qu'on l'introduisait à le haïr, à le mépriser elle-même, à redouter son approche comme une atmosphère empestée, sa compagnie comme une lèpre, de savoir tout cela, et de savoir en même temps que l'auteur de ses tourments était ce petit drôle qui, pauvre et dépendant de lui, lui avait tenu tête dès le premier entrevue, qui depuis l'avait bravé ouvertement à son nez et à sa barbe. Toutes ces pensées avaient tellement exaspéré sa malignité, ordinairement froide et sournoise, qu'il n'aurait rien épargné peut-être à ce moment pour la satisfaire, s'il avait eu sous la main quelque vengeance sûre et prompte. Mais il n'en avait pas, heureusement pour Nicolas. Il eut beau ruminer tous les jours, il eut beau se mettre la cervelle à l'envers pour inventer des plans et des projets favorables à sa haine, la nuit le trouva encore ressassant le même rêve et poursuivant sans fruit les mêmes chimères.
« Quand mon frère avait son âge, disait Ralph, les premières comparaisons qu'on faisait entre nous étaient toujours à mon désavantage. Lui était franc, libéral, vif et gai. Moi j'étais rusé, ladre. J'avais de la glace et non du sang dans les veines. » Pas d'autre passion que l'économie, pas d'autre ardeur que la soif du gain. Je ne l'avais pas oublié la première fois que j'ai vu ce petit drôle. Mais je me le rappelle aujourd'hui mieux que jamais.
Dans sa colère, il avait déchiré la lettre de Nicolas en atomes imperceptibles qu'il avait lancés en l'air et qui retombaient maintenant comme une pluie fine autour de lui.
Les souvenirs qui voltigent autour de mon esprit,
poursuivit-il avec un sourire amer,
n'ont pas plus de consistance que ces atomes. S'ils viennent de tous les côtés m'assaillir en foule, c'est que j'ai le tort de m'y prêter. Faisons mieux. Et puisqu'il y a encore des gens qui affectent de mépriser le pouvoir de l'or, montrons-leur un peu ce que c'est.
Cette réflexion remonta Ralph Nickleby et le disposa mieux au sommeil. Il alla donc se coucher, l'esprit plus satisfait.